Minas Gerais, L'Orient inédit, folklore turc. Les derviches. Les Turcs s'adressent parfois aux derviches pour découvrir l'auteur d'un vol. Ces derniers copient des versets du Coran sur de petits bouts de papier, les dissimulent dans la mie du pain et font manger ce pain aux personnes soupçonnées d'avoir commis le vol. Ils croient que le coupable crève au bout de 3 jours grâce à ce jugement de Dieu. Un derviche pauvre comme un rat et qui avait pieusement servi Allah toute sa vie se rend en Égypte sous le règne d'Ismaïl Pacha. Il voit au Caire un religieux musulman revêtu d'habits somptueux et veut savoir qui il est. On lui répond qu'il est un des serviteurs d'Ismaïl Pacha. Le derviche voit le lendemain l'individu qui passait en voiture, portant au doigt une grosse bague de diamants ayant l'air d'un homme opulent. Il veut connaître qui il est. On lui répond qu'il est un des serviteurs d'Ismaïl Pacha. Le surlendemain, le derviche rencontre un personnage suivi de domestique qui portait son parasol et son pardessus et veut apprendre qui il est. On lui répond qu'il est un des serviteurs d'Ismaïl Pacha. Le derviche pousse un soupir et s'écrie en levant les yeux au ciel « Oh Allah, vois la différence entre la position de ton serviteur et celle des serviteurs d'Ismaïl Pacha et apprends l'art d'être maître. » Bien des Européens ont visité le Teke, couvent des derviches tourneurs à Péra. Les derviches hurleurs possèdent à Scutari, à Constantinople, un teke où ils se livrent à leurs évolutions tous les jeudis vers les 2 heures de l'après-midi. C'est le 19 août 1889 que je visitais ce teke situé dans le quartier turc de Scutari. Je traversais le jardin et pénétrais dans ce modeste bâtiment en bois après avoir glissé une pièce de 5 piastres dans la main du portier arabe qui se tenait à l'entrée à côté de l'innombrable paire de souliers laissés là par les fidèles. Le temple est construit en forme quadrangulaire. Il possède des tribunes masquées de treillis et affectées aux fidèles du beau sexe. On y trouve aussi une tribune sans treillage destinée aux membres du corps diplomatique. Ces tribunes s'appuient sur des colonnes séparées par des parapets. Les spectateurs et les spectatrices se tiennent dans le corridor, formé derrière ces parapets. De modestes lampes sont suspendues au plafond. On a attaché au mur des cadres où figurent les noms des premiers califes, des tambours de basque, de petits tambours, des cymbales, larges comme des boucliers. Le mur, qui fait face aux spectateurs, est orné de dessins représentant le Toura impérial, d'inscriptions arabes, d'un vieux tapis oriental et d'une couverture noire où l'on a brodé en soie blanche les épithètes d'Ali et d'autres inscriptions. Il est encore garni de 2 œufs d'autruche et de 2 hallebardes. Au centre de ce mur, on a creusé une niche qui fait l'effet d'un autel, mais où pendent de nombreuses armes. Au pied de ce mur, on remarque des bisquins teints en rouge sur lesquels se repose le supérieur du teke. Un homme maigre de taille moyenne portant une barbe noire et ses moines coiffés en général de calottes de feutre blanc. Le plancher est semé de peaux de mouton blanches ou noires sur lesquelles s'agenouillent les chantres et les danseurs et qui sont enlevés dès qu'on procède à la danse. Un derviche se met à chanter d'une voix très douce un cantique arabe. Un autre récite en turc des prières que la foule des croyants s'empresse d'accueillir avec des Amen. Il prie Allah d'illuminer l'âme de Hassan et de Hussein, les premiers imams et de tous les trépassés musulmans, de prendre sous sa garde le sultan, d'accorder la victoire à l'armée ottomane, d'écraser les ennemis, de protéger les peuples mahométans, etc. Alors, tous les derviches et leurs adeptes se lèvent comme un seul homme. Quelques-uns, réunis au centre de la salle, se mettent à chanter. D'autres se mettent à danser en formant une vaste chaîne autour des chanteurs. Les chansons se prolongent, dénuées d'harmonie, et les danseurs s'embrassent, en répétant en guise de refrain le mot « Hou ». Mais l'extase augmente graduellement, et le refrain devient un cri ininterrompu qui étouffe le chant mélodieux d'un vieux derviche. Un arabe de taille gigantesque, resté debout et impassible, frotte le dos de chaque danseur qui passe devant lui. Ceux qui se sentent fatigués se retirent. Les autres continuent à danser et à hurler. La chaîne des danseurs est formée d'anneaux disparates. Un blanc danse à côté d'un nègre, un enfant à côté d'un vieillard, un homme richement vêtu à côté d'un dégueulard, dénié, un citadin portant le costume en européen à côté d'un provincial affublé du costume asiatique. Quelques-uns sont coiffés de fez, d'autres de calottes, de turbans ou de hauts bonnets cylindriques propres aux derviches tourneurs. Tous portent des chaussettes. La plupart des danseurs quittent enfin la salle, brisés de fatigue et ruisselants de sueur. Il ne reste plus qu'une douzaine de braves qui s'arrêtent devant la niche et continuent à s'agiter et à crier à tue-tête « Ouh, 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 ouh !» Leurs cris rauques menacent de déchirer leur gosier et de faire jaillir tout le sang de leurs poumons. Et celui qui déploie le plus d'ardeur est un vieux derviche. Avec une régularité automatique, il transporte de gauche à droite et de droite à gauche sa majestueuse barbe blanche, tout en criant le mot d'ordre de la secte « Ouh !» Le supérieur s'assied enfin. Deux moines lui présentent des flacons contenant un liquide blanc et des tasses dont je n'ai pas pu distinguer le contenu. Il souffle sur ces objets. Les moines les présentent successivement aux autres derviches qui soufflent également sur les flacons et les tasses. Ils emportent ces objets qui sont conservés avec un soin jaloux. Serait-ce une réminiscence de la communion des chrétiens sous les deux espèces ? Ces deux moines s'agenouillent de nouveau devant le supérieur et lui présente des mouchoirs blancs ou bleus et une chemise. Il se recueille, prie silencieusement, souffle sur la chemise et les mouchoirs, et en fait un paquet qu'il remet aux moines pour être restitué aux personnes qui ont voulu faire bénir ces objets dans un but de dévotion, ou plutôt de guérison. On présente alors au supérieur des enfants malades des deux sexes qui lui baisent la main droite et se couchent devant lui, le visage contre terre. Un des moines réunit leurs jambes. Le supérieur marche sur leurs reins avec ses babouches avec lesquelles il frotte leur dos. Il souffle sur ces jeunes malades qui se relèvent et lui baisent la main. Après la jeunesse vient l'âge mûr. Des civils, des soldats de terre et de mer, et même le gros cavasse de la légation de Grèce, qui, étant à la dame de la secte de ces derviches, avait dansé frénétiquement avec eux, après s'être débarrassé de son sabre et de son ceinturon. Tous ces musulmans se couchent par terre, et le supérieur répète la même cérémonie. On amène un bébé, le front serré avec un mouchoir. Le supérieur lui palpe le front avec précaution et souffle dessus. On amène d'autres enfants, mais un derviche les met à la porte en s'écriant « Ça ne finira plus, ça va durer jusqu'au soir, allez-vous-en. Nous avons trop souvent récité les prières sur vous. C'est embêtant. Et les derniers acteurs continuent leurs contorsions avec une frénésie croissante. Le délire de la danse s'empare même des spectateurs. Trois enfants, réunis dans la salle, imitent les gestes des danseurs. Il semble que les colonnes elles-mêmes vont s'ébranler bientôt. Mais tout a une fin. La danse sacrée meurt d'épuisement et le houhou, qui est transformé en un râle ininterrompu, expire à son tour. On récite d'une voix faible une dernière prière et les derviches sortent après avoir respectueusement salué leur chef. Je quitte le teke et je m'enfonce dans le vaste cimetière turc, aspirant le parfum chaste des cyprès et contemplant avec mélancolie le mausolée blanc, noir, rouge, bleu, vert ou jaune qui viennent derrière les derniers rayons du soleil. Un orgue de barbarie, dont la gaieté profane vient troubler le silence éternel de la métropole, me rappelle aux tristes réalités de l'existence. Je prends une tasse de café dans un estaminet bâti sous les cyprès, l'œil fixé sur les trous creusés dans le marbre des tombeaux, afin que les oiseaux viennent y boire les gouttes de la pluie. Touchante coutume, empruntée aux Arméniens, qui croient, après avoir étanché leur soif, ces êtres innocents prient pour le repos de l'âme de l'homme enterré sous le monument funèbre. Je traverse des rues bordées de vieilles maisons turques que la jalousie orientale a couvertes d'un filet de treillis et je prends, à l'embarcadère de Scutari, le bateau qui me reconduit à la côte européenne du Bosphore, dont les flots de turquoise scintillent sous les ors d'un incomparable crépuscule. Mais ces scènes magiques ne parviennent pas à dissiper la vision de la ronde échevelée des derviches, et toute la nuit résonne dans mes oreilles leurs cris sauvages. Ouh, 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 ouh.